Notre invité ce matin qui est un écrivain qui d'une certaine façon parle aussi de l'Europe des arts et des sciences à travers ce livre sur la route du Danube qui allie la littérature, l'histoire, la géographie. C'est le roman d'une remontée à vélo à contre-courant du fleuve Danube pendant 48 jours. C'est aussi une remontée du temps d'Ukraine en Allemagne, une réflexion sur la frontière et sur ce qui lie et délie les peuples entre eux. J'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Ruben. Bonjour.
Bonjour.
Écrivain donc, et puis directeur de la maison Julien Gracq. Ce livre, Sur la route du Danube, est édité aux éditions Rivage. Vous écoutiez Emmanuel de Marcimota à l'instant. Vous y croyez, vous, à cette Europe des peuples via les arts et les sciences? Il est beaucoup question d'écrivain poète européen dans votre ouvrage.
Ah oui, bien sûr, je crois, moi, dans la littérature européenne. Je me définis comme un écrivain européen de langue française. Et je ne suis pas le premier à croire dans la littérature européenne. Le premier a été Goethe, en fait. Goethe croyait vraiment dans la littérature européenne, et Mazzini également. Et il y a des très beaux textes de Goethe et de Mazzini sur la question de la littérature européenne. Et je pourrais vous citer Goethe, justement, qui dit: j'entrevois l'aurore d'une littérature européenne, aucun peuple ne pourra la revendiquer pour sienne, ils auront tous contribué à la fonder. Et le romantisme, c'est aussi cela. C'est-à-dire, on pense évidemment, quand on pense naissance de l'Europe intellectuelle, on pense à la Renaissance. Mais le romantisme est également un mouvement européen. Emmanuel de Marcimota citait Musset, et c'est sûr que le texte de Musset, La confession d'un enfant du siècle, fait partie de ce mouvement de la littérature européenne.
L'épilogue de votre récit sur la route du Danube s'intitule « Réécrire l'Europe ». C'est aussi une volonté, quand vous dites que vous êtes un écrivain européen de langue française, est-ce que par la littérature, on peut, d'une certaine façon, constituer une Europe, ou bien c'est le prendre dans l'autre sens, l'Europe est une fiction, voire un mythe, et qu'il va falloir réussir à raconter?
Ah oui, l'Europe est une fiction, l'Europe est un mythe. L'Europe est avant tout, l'Europe c'est d'abord une déesse, une nymphe ou une déesse, ça dépend un petit peu selon les différentes versions, qui apparaît. La première apparition de l'Europe, c'est dans Hésiode, c'est dans la Théogonie d'Hésiode. Donc, et elle apparaît comme une des océanides. C'est-à-dire que Hésiode commence par citer les fleuves. Il parle de tous ces fleuves d'Europe, et il nomme d'ailleurs le Danube, qu'il nomme en grec. En grec, c'est Istros. Istros aux belles vagues. Et ensuite, il nomme ces différentes océanides, et parmi lesquelles il y a Europée, cette princesse qui viendrait de Tyr, et qui sera, comme on le sait, enlevée par Zeus, transformée en taureau. Donc ça commence quand même par un enlèvement, l'histoire de l'Europe. Et ce mythe a continué. Ensuite, il y a eu plusieurs versions de ce mythe. Donc je pense en effet que l'Europe est une fiction, qu'il faut la réécrire comme une fiction. On sait, alors il y a eu des moments où on a tenté des constitutions européennes, mais mettre la constitution avant la fiction, je crois que c'est pas une très bonne idée.
Emmanuel de Marcimota, l'Europe comme fiction?
Je pense que c'est une belle idée sur laquelle on pourrait beaucoup réfléchir. Je veux dire, en tout cas, c'est un fil à tirer, c'est-à-dire l'idée entre la fiction et le réel, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous interrogez par exemple sur l'histoire d'une nation ou d'un peuple, de sa culture ou de ceux qui font la culture d'une nation, disons, à travers toutes leurs différences, eh bien, on voit bien qu'on a besoin des œuvres de fiction. On a besoin d'avoir des récits. C'est à travers, je dirais, le cinéma, la littérature, le théâtre, c'est-à-dire tout ce qui fait récit, et peu importe la forme même de ce récit, c'est-à-dire qui fait fiction, que nous pouvons raconter le réel. On a besoin d'une fiction pour pouvoir penser la réalité. L'idée que le réel serait avant la fiction est une idée assez fausse, finalement, et une idée un peu simple, mais que c'est par, justement, notre capacité d'inventer une fiction qu'on peut interroger notre histoire. Et c'est souvent la question d'ailleurs au sein de l'Europe et de notre propre histoire, si je prends la France et dans ce que nous disons dans son rapport au XXe siècle, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ce passage du XXe au XXIe, mais c'est-à-dire à notre mémoire. La mémoire, c'est non pas une fiction, mais c'est aussi l'endroit d'une émotion qui est stockée en nous et qui fait partie de notre histoire. Et c'est bien la distinction entre le mot histoire et mémoire qui nous permet de travailler. Donc on a besoin d'avoir une mémoire de notre Europe, comprendre notre histoire et produire des fictions à travers notre propre histoire pour vivre le moment réel et le temps présent. Quand on discute avec un astrophysicien ou avec des scientifiques, dans le rapport de la fiction et du réel par rapport à ce que vous disiez, et moi j'aime beaucoup cette idée, le besoin de constituer une fiction de l'Europe et un récit de notre Europe qui peut être différent, qui peut être pluriel justement, c'est cette pluralité dans les identités qui fait, je dirais, l'enjeu peut-être pour l'avenir, comme le disait d'ailleurs le poète Fernando Pessoa, c'est-à-dire je ne suis pas un, mais je suis multiple. Donc l'idée de l'identité unique est une idée totalement funeste finalement, et ça a été une des grandes problématiques françaises. Donc pour finir, on a besoin d'avoir cet endroit de la fiction. Regardez par rapport à la question de la guerre d'Algérie, on a besoin de pièces de théâtre et de grands récits sur notre propre histoire.
Emmanuel Ruben, vous l'écrivez d'ailleurs très clairement dans Sur la route du Danube, l'Europe ne se réduit pas à la fiction communautaire pour laquelle nous élisons tous les 5 ans les députés dont nous n'entendons plus parler jusqu'à la prochaine échéance. Une autre Europe existe, une Europe tissée de rivières et de vies ordinaires, et cette Europe, nous l'avons traversée. Alors, plongeons dans ce livre sur la route du Danube, qui est un livre sur le Danube, puisque d'une certaine façon vous remontez le Danube à vélo, à contre-courant, mais au fond c'est un livre donc sur l'Europe, qui est né, dites-vous, d'une triple passion pour le Danube, pour le vélo, pour l'histoire de l'Europe, que vous qualifiez d'homme malade de la planète. Elle est malade, l'Europe ?
Oui, l'Europe est malade. L'Europe est malade. Alors, l'homme malade, c'est un clin d'œil, en fait, à la manière dont on parlait de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle et au début du 20e. On disait l'homme malade de l'Europe. L'Europe est aujourd'hui l'homme malade de la planète, parce que c'est un continent qui est vieillissant. On a parlé des jeunes générations, moi j'y crois beaucoup, mais quand on traverse l'Europe à vélo comme nous l'avons fait, nous rencontrons surtout beaucoup de vieilles personnes.
Vous avez traversé de la mer Noire à la forêt noire, c'est-à-dire d'Ukraine en Allemagne.
On est parti d'Odessa et on est allé jusqu'à Strasbourg.
En passant donc par la Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne. Pour le périple. Pourquoi contre-courant ?
Ah, pourquoi contre-courant ? Parce que on voulait pédaler. Le Danube se mesure depuis le kilomètre zéro, se trouve à l'embouchure. C'est une des particularités de ce fleuve. Donc on s'est dit, on n'est pas parti tout à fait du kilomètre zéro, on est parti d'Odessa, donc un petit peu plus loin que le kilomètre zéro, à 200 kilomètres de cet endroit, Sulina, où officiellement, donc en Roumanie, le Danube rejoint la mer Noire. On est parti d'Odessa, bon, il y avait plusieurs raisons à cela. Moi, mon premier roman se terminait à Odessa. Odessa est une ville pour laquelle j'ai énormément d'affection. Et on voulait surtout faire cette route dans le sens des migrations, de toutes les migrations, et pas seulement de cette crise migratoire, entre guillemets, dont on parle tant en ce moment, toutes les migrations. Nous sommes tous venus de l'Est. L'histoire commence en Orient et se termine en Occident. Donc, on voulait faire le parcours dans ce sens-là, et aussi à rebrousse-poil des vents dominants, à rebrousse-poil de la manière dont l'Union européenne s'est construite par un mouvement d'intégration progressive de pays considérés comme des marches et qui sont intégrés progressivement à l'Union européenne. Et on voulait que ce voyage se termine à Strasbourg. Strasbourg se trouve, le livre se termine au pied, même dans le Parlement européen, on rentre, enfin il y a une espèce de d'utopie de que je pourrais appeler de vélorussion, où on rentre
se fait à vélo, hein, voilà, faut quand même le rappeler,
tout, tout, vous pédalez, tout ça se fait à vélo. On rentre même dans le Parlement européen. Alors voilà, il y a des moments quand même c'est un livre où il y a quand même un peu de fiction par moment.
C'est un livre très très fictionnel, même si vous avez vraiment pédalé.
Alors les étapes,
dites,
voilà, les
vous
étapes
dites
sont réelles
parce que vous l'avez fait avec une personne qui s'appelle un ami dans tous les cas dans le roman, qui s'appelle Vlad, qui est un Ukrainien. Méditerranéen. Et c'est donc à la fois une odyssée cycliste et vous dites un récit d'arpentage, puisque vous avez une formation de géographe et que la géographie a une place extrêmement importante hein, dans votre œuvre en général, Emmanuel Ruben, et dans ce livre sur la route du Danube en particulier. Mais je voudrais juste qu'on termine cette première partie, avant les titres de l'actualité, par une question autour de ce que vous avez vu finalement. Vous avez dit une Europe, peut-être l'Europe est malade aujourd'hui, mais une Europe vieillissante. Est-ce que vous avez vu, à travers tous ces pays, une Europe ou une mosaïque d'Europe? Est-ce que vous avez vu encore quelque chose qui a un rapport entre cette Europe de l'Est et cette Europe de l'Ouest où nous vivons, nous?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Et si j'ai fait ce voyage, c'est parce que, comme tout Européen, j'ai fait des sauts de puce en Europe. C'est-à-dire que, vous savez, on a l'habitude souvent, vous avez un ami qui vous dit « Ah, je reviens de Bratislava ». Bon, Bratislava, en principe, en avion. « Ah, je reviens de Stockholm ». En principe, on est allé à Stockholm en avion. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays d'Europe et j'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe en avion. J'ai eu à un moment donné quand même le besoin de tisser tous ces lieux dans lesquels j'ai vécu, tous ces lieux que je connais bien. J'ai vécu pendant 2 ans à Novi Sad, en Serbie. Des villes comme Budapest. Budapest est une ville que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Je connais Vienne, je connais Belgrade. Et j'avais ce besoin de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'antre. Puisque,
il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ombre?
Il y a tout d'abord des paysages qui sont magnifiques. Il y a des gens qu'on a rencontrés qui sont extrêmement émouvants. On a dit, le livre est en fait une suite de rencontres avec des personnes qui m'accompagnent encore en pensée. Et il y a des lieux, alors il y a tous ces lieux où on voit que, évidemment, les gens partent. Hein. Notamment, à un moment, il y a ce passage à la frontière serbe, entre la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie, où on se rend compte qu'en fait, les villages se vident. Se dépeuple complètement. On dirait que le dépeupleur de Beckett est passé par là. Il n'y a plus assez de place sur les murs des villages pour indiquer pour afficher les avis de décès. Donc on affiche les avis de décès sur les arbres.
Les gens des arbres. Partent beaucoup, dites-vous, Emmanuel Ruben. Et puis il y a aussi des gens qui ont peur d'autres gens. Vous croisez une Europe des frontières qui est souvent pas très favorable, disons, aux immigrés, pas très favorable de façon générale aux musulmans. Plus on se rapproche de la Hongrie et de l'Autriche, plus on sent la présence de l'extrême droite et de la peur qui nous rapproche de ce que disait Emmanuel de Marcy-Motta tout à l'heure. On vous retrouve dans quelques minutes, juste après le titre de l'actualité de Maxime Fayol. Je vous remercie, Emmanuel de Marcy-Motta, d'être venu ce matin. Et comme on parle de la peur, j'invite aussi les auditeurs, outre à ceux qui sont à Paris, à se rendre au Théâtre de la Ville aujourd'hui et demain. On mettra toutes les informations nécessaires sur le site des Matins du Samedi, mais aussi à pouvoir aller voir Les Sorcières de Salem que vous mettez en scène jusqu'au 19 avril, où il est question justement de peur, de superstition, de paranoïa collective et de cette frontière parfois trouble entre vérité et mensonge. Il est 7h30 sur France Culture. Et les titres de l'actualité sont présentés par Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Des scènes de joie au Soudan depuis hier soir. Le chef du conseil militaire de transition renonce au pouvoir après la destitution d'Omar el-Béchir. Les militaires ont démenti plus tôt dans la journée la volonté de mener un coup d'État. Ils assurent vouloir instaurer un gouvernement civil. Les militaires affirment toutefois qu'ils ne livreront pas Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Il est soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour ses agissements au Darfour. La Cour pénale internationale qui n'ouvrira pas d'enquête sur les agissements de l'armée américaine en Afghanistan. Une enquête préliminaire avait été ouverte en 2006, mais la situation ne permet pas des investigations complètes, estime la Cour. Donald Trump s'est félicité de cette décision. Un nouveau parti lancé en Grande-Bretagne, c'est le parti du Brexit. L'ancien leader du UKIP, Nigel Farage, en est à l'origine. Il fait son retour sur la scène politique avec ce parti en vue des élections européennes. Toutes les précisions d'Antoine Gignot sont assurées. suivre à 8h sur ce parti du Brexit. En France, le 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Aujourd'hui, une mobilisation qui va se concentrer à Toulouse où plusieurs figures du mouvement se sont donné rendez-vous. Les autorités s'attendent entre 10 000 et 15 000 personnes dans la ville rose. À Paris, des Gilets jaunes sont attendus cet après-midi, place de la République. Un week-end qui est aussi marqué par les premiers états généraux des femmes journalistes organisés demain par l'association Prenons la Une. Ce forum doit permettre notamment d'alerter sur le faible nombre de femmes à la tête des médias en France. À peine 20% dirigent des rédactions. Nous entendrons la présidente de l'association Prenons la Une, Léa Lejeune, dans le journal de 8h.
Eh bien, à tout à l'heure, 8h. Quant à nous à suivre d'ici ce journal de 8h à 7h40, ça sera la fabrique médiatique sur la redevance audiovisuelle. Faut-il la supprimer ? Débat entre le sénateur La République En Marche, André Gattolin, et l'historien ancien président de Radio France, Jean-Noël Jeannonet. Mais avant cela, suite et fin de notre entretien avec Emmanuel Ruben.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Événement, journée spéciale Jean-Luc Godard, ce lundi sur France Culture. Olivia Gesbert.
C'est dans sa maison en Suisse qu'il nous a reçus. Ce cinéaste légendaire ne parle pas tout à fait la même langue que nous, écrit ses films au montage et pense avec ses mains. À 88 ans, il aime commenter l'actualité et prend un malin plaisir à la contradiction.
Mais les journalistes, vous voulez toujours avoir le dernier mot. On dit quelque chose, pof, vous dites « Ah bon, ça veut dire que ?» Moi, je dis « Non, pas du tout. »
Godard, pas suffisamment triste pour que le monde soit meilleur, mais toujours là pour le penser avec son cinéma et en parler.
Godard comme jamais, journée spéciale Jean-Luc Godard, ce lundi dès 7h et un dossier complet sur franceculture.fr.
Emmanuel de Marcimota est resté, nous sommes très heureux qu'il reste avec nous autour de la table. Nous retrouvons notre invité du jour, Emmanuel Ruben, auteur de « Sur la route du Danube » qui vient de paraître aux éditions Rivage et qui est un formidable livre, je tiens à le préciser. Et Emmanuel Ruben, vous tenez-vous à préciser que vous n'êtes pas un écrivain voyageur, mais un arpenteur ou bien un géographe défroqué? Ça voudrait dire quoi, ça? C'est une posture snob?
Non. Je suis...
Vous n'êtes pas snob?
Ça... Tous les écrivains sont snob, vous ne saviez pas ça?
Pas encore.
Non. Je suis géographe de formation. Et je, en fait, je, c'est-à-dire que quand je ne me déplace pas forcément pour voyager, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui me dérange avec cette appellation d'écrivain voyageur, comme si, parce qu'on voit bien que nous sommes devenus, nous les Occidentaux, il y a un devenir touriste de l'homme occidental. C'est-à-dire que je le disais ça dans Terminus Schengen, qui était mon livre précédent. Nous croisons quand nous croisons ceux que nous appelons les migrants, ces réfugiés, nous les croisons, nous sommes toujours dans une situation de touristes. Et je suis bien conscient qu'il m'arrive d'être un touriste comme les autres, mais en principe, quand je voyage, c'est pas forcément dans un but touristique. En tout cas, là, c'était pour écrire ce livre, et c'était pour donner vraiment les mesures de l'Europe.
Oui, je mesure
les ponts. L'idée, c'est vraiment de. C'est aussi un livre de géographie.
Vous avez écrit un livre qui s'intitule Le cœur de l'Europe, Emmanuel Ruben. Il est où pour vous, le cœur de l'Europe?
Le cœur de l'Europe, chacun a voulu le situer à l'endroit qui lui plaisait. Tout cela remonte en fait à un cartographe allemand qui s'appelle Sébastien Münster et qui avait proposé une image de l'Europe comme femme. C'est une image qu'on trouve facilement aujourd'hui si on cherche par exemple sur Internet. Et donc cette reine Europe avait pour la tête de la reine Europe, c'était la France évidemment. Le bras qui tenait le sceptre, c'était le Danemark. Et puis le bras qui tenait le globe, c'était l'Italie, qui tenait la Sicile, qui était un globe. Et puis, le cœur se situait en Bohême. Et parce que je pense que Sébastien Münster avait une petite affinité avec cette région. Et on retrouve, par exemple, Nicolas Bouvier, lui, dit que le cœur de l'Europe se situe dans les Balkans.
Et le vôtre, il bat où? Le vôtre, je veux dire, le cœur de votre Europe, bien sûr, hein, pas votre cœur à vous.
Tout au long du Danube, partout, dans tous les paysages que nous avons traversés au long du Danube, en remontant le Danube, mais surtout, moi, le cœur de mon Europe, il bat en Zintari, vous savez, c'est mon pays.
Ah ben voilà, j'allais vous poser la question.
Mon pays imaginaire.
C'est quoi la Zintari ?
Ah, la Zintari, c'est...
En deux mots, parce que vous maintenez le suspense dans le livre.
La Zintari, c'est un pays que j'ai inventé dans mon enfance, à 9 ans, et qui est la matrice, en fait, de tous mes livres. C'est-à-dire que tous mes livres sortent de ce pays qui se situait primitivement en forêt noire, là où le Danube prend ses sources, hein, puisque le Danube prend ses sources en forêt noire, donc ce livre est aussi une remontée aux sources. Et puis la Zintari, vous savez, c'est un pays mouvant. C'est un pays, comme l'Europe est un continent de frontières mouvantes, la Zintari s'est déplacée et elle était devenue un archipel de la Baltique. Et parce qu'on m'avait quand même fait comprendre qu'on ne pouvait pas annexer la terre d'un autre peuple. C'était un grand-oncle qui m'avait expliqué ça, puisque j'annexais une partie de l'Allemagne. Donc j'avais déplacé la Zintari au milieu de la Baltique. Et La ligne des glaces, qui était mon troisième roman, était déjà une manière de partir à la recherche de cette Zintari.
Et puis la suite, La ligne des glaces, c'était le premier épisode d'une suite européenne dont Sur la route du Danube constitue le deuxième volet. On attend avec impatience le troisième volet. Merci beaucoup.
Le premier volet, c'était La ligne des glaces.
Oui, c'est ça, La ligne des
glaces. Et ce que j'ai pas dit sur la Zintari, c'est que c'est un pays qui est né le jour de la chute du mur de Berlin. Ça, c'est important.
Merci beaucoup Emmanuel Ruben. Et je citerai juste la critique littéraire Josiane Savigno sur votre livre. Elle écrit: si Sur la route du Danube était lu par tous ceux que le mot Europe met en colère, ces 600 pages passionnantes seraient un super best-seller. On va se quitter en musique avec l'un de vos choix. Vous nous en aviez envoyé une petite dizaine. Vous allez reconnaître ce que c'est. Alors, vous avez reconnu Emmanuel Ruben ?
Elektrichny Orgasm, Baby Tin Situ, Bébé, tu n'es pas là.
J'ai préféré que ce soit vous qui le disiez. Cette musique choisie par notre invité Emmanuel Ruben, dont je rappelle le titre de l'ouvrage, Sur la route du Danube aux éditions Rivage. Eh bien, donc sur cette musique, nous atteignons 7h40. 7h40, c'est l'heure de la fabrique médiatique.